Bien, bonjour mes petits conquistadors perdus du Soudan Nord, j'espère que vous allez bien et je vais très bien et je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 266, Volkanovski contre Ortega. Puis mon Dieu que c'est juste le fun d'avoir une bonne carte de l'UFC qui s'en vient. Il me semble que on est maltraité un peu dans les dernières semaines. Soit que les cartes sont vraiment random, soit qu'elles sont juste pas bonnes, soit qu'il n'y a pas un bon main event, mais qu'il y a une couple de noms qui nous intéresse, comme le cas de la semaine passée. Mais c'est tout des match-ups peu compétitifs, mettons, pour les gens comme Arman Tsaroukian. C'est les noms qui nous intéressaient, cette carte-là. C'était pas des bons match-ups. Bref, tout ça pour dire, on a finalement une belle carte, un pay-per-view, deux title fights, le retour de Nick Diaz, des bons combats partout, même sur les prelims. Je suis vraiment très excité pour cette carte-là. Je vous offre mes analyses et prédictions complètes pour tous les combats, incluant le combat principal de la soirée. Et c'est le fun quand t'as une carte qui est bonne, qui est stack, mais c'est aussi le fun quand t'as une carte que le meilleur combat de la soirée, c'est clairement le main event. Et puis, c'est ça qui arrive avec cette carte-là. Alexander Volkanovski, Brian Ortega, ensemble, dans le main event, dans un combat qui va absolument être incroyable, peu importe comment ça va. Je pense qu'il n'y a aucune chance que ça n'aille pas bien. Maintenant, ce combat-là me fait un peu... Il y a quatre manières que la façon logique dont ce combat-là se déroule n'arrive pas. Puis je vais vous les expliquer, mais en commençant, je vais commencer par la façon logique dont ce combat-là se déroule. Et c'est basically qu'Alexander Volkanovski réussit à outstriker Brian Ortega pour la victoire par décision. Parce que, oui, Ortega est plus grand que Volkanovski. Alexander Volkanovski, étrangement, il n'est que 5 pieds 6 et vraiment minuscule en termes de grandeur pour la division, mais va avoir plus de reach que Brian Ortega. Expliquez-moi pas comment ça arrive, ça, physiquement, mais le gars le plus petit ici, puis notamment le plus petit de 2-3 pouces, va avoir plus de reach que Brian Ortega. Puis, tu sais, Alexander Volkanovski est un incroyable distance striker, malgré le fait qu'il est petit, parce qu'il contrôle tellement bien le range de 1, parce que, on va établir ça dès le départ, ce gars-là est un athlète absolument extraordinaire, là, ça me dérange pas ce qu'il dit cette semaine-là. Il dit « Oh non, moi je suis pas athlétique, je fais juste travailler très fort ». Le gars champion du monde en UFC, joueur professionnel de rugby, donc un professionnel de haut niveau dans deux sports différents. Big Arrête, là, t'es un athlète absolument incroyable, puis c'est grâce à ça un peu qu'il est capable d'être un si bon distance striker. Ça, puis son intelligence, son fight IQ, c'est vraiment deux grandes qualités qu'il a qui vont lui conférer l'avantage dans ce combat-là, assurément, parce que Brian Ortega, oui, a été complètement modifié, un combattant nouveau face à Korean Zombie, où il a réussi à le faire venir vers lui, puis à le sniper. Là. Il est vraiment devenu un sniper qui... Mais pas devenu, parce qu'on le voyait dans ses derniers combats, hein, que, sauf contre Max Holloway, que ça a vraiment pas bien été, mais je pense juste que Max Holloway a un style match-up un peu dégueulasse pour lui. Puis, je pense que pas que Volkanovski va devenir Max Holloway, mais Alexander Volkanovski est un combattant qui, quand il avance, quand il décide de step dans la pocket puis de rentrer, rentre avec des combinaisons. Puis des combinaisons main-pied, des combinaisons à la tête et au corps, des combinaisons à la tête et à la jambe. Tu sais, varie très bien ses niveaux, varie ses attaques, varie ses entrées. Souvent, il va juste rentrer dans la... Et juste, tu sais, on the edge of the pocket, puis il va juste switcher de stance, ce qui fait qu'il, vu qu'il met son pied en avant, son pied en arrière, vu qu'il l'amène en avant, va juste rentrer dans la pocket en tant que gaucher, lance une combinaison, ressortir. Le gars est vraiment créatif et est un très, très bon striker fondamental qui... Tu sais, Brian Ortega... est un peu plus le sniper, est un peu plus le gars qui va essayer, oh, le spinning elbow, le gros head kick, le gars lance des step knee à côté. C'est probablement ce qui fait le mieux, en fait, ses genoux et ses uppercuts. C'est de loin les deux meilleurs atouts de Brian Ortega. Puis ça ne me surprendrait pas qu'Alexander Volkanovski, une fois de temps en temps, se sacle la face direct dedans. L'affaire, Mais c'est qu'on l'a vu manger des très très bons coups contre Max Holloway. Le gars est tough comme personne dans la division. Je pense que c'est un des combattants les plus durables. Donc, je vois pas Ortega être capable de mettre assez de volume sur Alex Volkanovski pour réussir, t'sais, à gagner ce combat-là. Maintenant, les choses qui peuvent arriver, qui fait que ça se passera pas comme c'est supposé de se passer, le numéro un, c'est, comme je l'ai mentionné, les knees et puis les uppercuts de Brian Ortega qui sont dévastateurs, qui est la manière dont il a fait mal à Frankie Edgar, il a fait mal à Korean Zombie, il a fait mal à pas mal tout le monde contre qui il s'est battu avec ces techniques particulières-là. Et puis, la grandeur ici, parlons pas du reach, parlons de la grandeur, va faire que Alexander Volkanovski, quand il va stepper dans la pocket, mettons qu'il essaye de lancer une grosse droite ou une grosse gauche, tout dépendamment dans laquelle stance il est, parce que le gars se bat vraiment beaucoup dans les deux stances. Tout comme Brian Ortega d'ailleurs, là. Mais tu sais, le fait que Volkanovski est plus petit va courir la chance de sacrer la tête directement dans un de ses coups de genou-là ou dans un de ses gros uppercuts-là. Et puis, comme j'ai dit, il est excessivement durable. Je le verrais mal se faire finir par ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Puis l'autre affaire, ben écoute, c'est le jiu-jitsu de Brian Ortega là, qui est absolument incroyable. Puis oui, son striking s'est tellement amélioré que c'est plus quelque chose de quoi on parle parce que Brian Ortega n'est pas un bon lutteur anyway. Fait qu'il n'est pas quelqu'un qui va essayer de lander des takedowns vraiment, tu sais, pour aller travailler son jiu-jitsu. Et même pas nécessairement un bon top control grappler, mais sa garde est probablement la plus redoutable dans tout l'UFC. À un point que tu t'essayes pas, genre, littéralement, si tu peux ne juste pas grapple avec Brian Ortega, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce que dès que ce gars-là te touche, que ça soit au sol ou debout, peu importe dans la position que tu es, il peut essayer des triangles, des guillotines, des armbars, le gars, est complètement lethal, puis son style de jiu-jitsu en est pas un de position, tu comprends? C'est vraiment un gars qui est un finisher, qui est un opportuniste né, puis qui la moindre ouverture au sol que tu vas lui laisser, il est capable de convertir ça en soumission. Donc, ça va toujours être un X-factor dans n'importe quel combat de Brian Ortega, mais la raison pourquoi je peux pas pick Ortega ici, c'est qu'Alex Volkanovski, de un, si tu parles de la lutte entre les deux, c'est pas le même niveau. Volkanovski est un excellent lutteur à cause de son background en rugby. Le gars est habitué là, de plaquer des gens puis de les amener au sol, littéralement. Puis il fait très bien ça en MMA. Il réussit quand même bien à camoufler ses takedowns avec ses strikes en plus. Mais surtout, Alex Volkanovski a un très bon fight IQ, ce qui fait qu'il sait que tu ne peux pas grapple avec Brian Ortega, ce qui fait que je pense qu'il va vraiment limiter ses options de grappling au maximum. Le un combattant très intelligent va juste décider que c'est un stand-up fight puis qu'il faut qu'il gagne le stand-up fight pour gagner le combat parce que je pense juste que c'est trop dangereux de s'installer sur le top de Brian Ortega et d'essayer de gagner du ground and pound et des choses comme ça contre lui. Ça serait vraiment, vraiment pas un bon game plan. Ceci étant dit, la seule affaire que je veux rajouter par rapport à ça, c'est le clinch. C'est là que ça va être le plus dangereux parce que Brian Ortega, on l'a vu juste sauter dans des guillotines, dans le clinch. C'est quelqu'un qui, debout, s'il est capable de wrap sa main alentour de ta tête, va essayer quelque chose. Et puis le fait qu'il est plus grand que les 2 pouces sur Alex Volkanovski, ça fait que si les deux clinchent, c'est beaucoup plus facile pour le plus grand des deux d'essayer de dégler la tête en dessous de son bras puis de partir avec une guillotine. Donc, quelque chose à surveiller ici pour Volkanovski. Je pense que son fight avec You est suffisant pour qu'il ne se mette pas dans ces positions-là. C'est pourquoi je vais avec Volkanovski par décision ici, mais 25 minutes contre un finisher opportuniste contre Brian Ortega, chaque minute de ce combat-là va être absolument fascinante. Ce qui ne sera pas le cas du co-main event. Puis, tu sais, je suis vraiment content pour Lauren Murphy. Là. Je trouve qu'elle a vraiment une belle histoire. Elle avait un fils, il avait 8 ans, décidé d'aller le porter au jiu-jitsu parce qu'elle voulait qu'il fasse des arts martiaux. Puis elle a dit, hey, pour l'encourager, il va faire la classe d'enfant, puis moi, je vais faire la classe d'adulte. Finalement, son gars, il n'a pas aimé ça pantoute, mais elle, oui, elle s'est mise à faire du jiu en dedans d'un an, un an et demi. Elle a fait un combat professionnel de MMA, puis finalement, elle a décidé justement de s'entraîner là-dedans. Puis T'sais, elle n'est pas athlétique, elle n'a pas grand-chose pour elle, Lauren Murphy, mais elle est tough, puis elle est résiliente, puis elle va de l'avant, puis elle l'essaye, même si elle ne sait pas si elle va être capable, elle n'arrête jamais d'essayer, puis ça fait qu'elle outwork ses adversaires, puis qu'elle a, t'sais, autant impossible que tu peux penser que ce soit réussi. Ça me dit avec, dans ce combat-là, avec une séquence de 5 victoires consécutives, elle a battu des filles comme Andrea Holly, Roxanne Modafferi, Jojo Calderwood. Donc, oui, des combats qui ont été serrés, notamment contre Lee et Calderwood, mais c'est la personne dans la division qui mérite le plus un title shot, puis je suis content pour elle qu'elle l'aille. Ceci étant dit, ce combat-là, c'est whenever, wherever, we're meant to be together là, pour Valentina Shevchenko. Elle peut littéralement faire ce qu'elle veut avec, puis la finir de la façon qu'elle veut au moment qu'elle veut. Puis j'ai pas besoin d'analyser ça pour vous. Là. Ces deux filles-là ne devraient pas se battre ensemble. C'est juste que Murphy, c'est elle la number one contender legit dans la division. Puis Valentina, faut qu'elle continue à péter des filles une fois de temps en temps. Donc. Valentina, si j'ai TKO au troisième round, le problème probablement que Lauren Murphy va se puncher dans le clinch, va se faire lancer cul par-dessus tête, va se faire brutaliser au sol par Valentina. Je pense que c'est pas mal ça que je vois dans ce combat-là. Fait que Valentina, TKO, round 3. Ça nous mène au retour de mon combattant préféré de tous les temps, Nick Diaz. Et puis j'ai tellement aucune attente pour ce combat-là, honnêtement. Puis plus que je vois la semaine avancer, moins que j'ai d'attente pour ce combat-là. Le fait qu'il n'a pas l'air aussi en shape qu'il avait l'air sur ses photos. Son vidéo de shadowboxing, oui, je le sais qu'il leur demande de faire ça lentement pour le vidéo d'avant-combat. Il ne vous demande pas à shadowbox de façon impressionnante. Là. C'est jamais ça qui est demandé. Donc, il ne faut pas se fier vraiment là-dessus. Mais il a l'air vieux. Il n'a pas l'air d'avoir envie d'être là. Il n'a jamais l'air à faire avoir envie d'être là. Nick Diaz est drôle. C'est, il n'aime pas se battre. Je ne sais juste pas pourquoi il fait ça. Il n'a pas l'air de savoir lui-même pourquoi il fait ça. Puis tu sais, ses derniers combats, il ne gagnait pas. Puis son dernier combat contre Anderson Silva, non seulement il n'a pas gagné, on dirait qu'il n'a même pas essayé de gagner. Oui, il s'est couché à terre. C'était complètement hilarant. Mais tu sais, c'est comme... C'est rendu ça, tu sais, les frères Diaz. Là, je peux pas arriver dans ce combat-là et dire « Oui, j'ai beaucoup d'espoir pour mon combattant préféré ever, Nick Diaz. » Quand je sais très bien que c'est le fantôme de Nick Diaz qui va se pointer dans ce cage-là. Il va faire des mean mugs, des fuck you, il va saigner de partout puis il va probablement perdre une décision de 5 rounds contre Robbie Lawler. Fait que c'est rien que ça que j'ai à dire là-dessus. Ça nous mène un bon combat d'heavyweight sur la main card, Curtis Blaze, Jairzinho Rozenstrike, et puis tu sais, ça c'est genre le repeat du match-up contre Derrick Lewis. Puis honnêtement, autant j'ai vu Lewis knocker Curtis Blaze bien fret, autant que, tu sais, c'est fucké ce que je m'en vais dire, parce que Jairzinho Rozenstrike est tellement un meilleur striker que Derrick Lewis, je pense que tu peux même pas comparer les deux, parce que Rozenstrike, c'était un kickboxer avant pour Glory, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Il était bon. C'est un bon kickboxer, puis on le voit de sa technique est clean. Il est juste tellement lent genre pour se mettre dans son combat. Pas quand il lance, il est pas si lent que ça, mais il est long à se mettre dans son combat, puis il lance pas de strike. Il en lance pas assez. C'est un counter-striker dédié comme il s'en fait pas, puis il va pas lead. Il va juste attendre la chance de lancer la strike parfaite, puis si tu lui donnes jamais comme Cyril Gann, ben il en lancera jamais. Donc, on dirait que Derrick Lewis, le fait qu'il soit moins technique, soit un peu plus brouillon, ça surprend ses adversaires. Puis, tu sais, Blades restait à range puis outboxait facilement Derrick Lewis jusqu'au moment où il a dit ben là, moi, je suis un lutteur, Curtis Blades. Chris, je suis un lutteur, faut shoot pour un takedown. Puis, j'ai l'impression que Lewis, il attendait rien que ça pour le tuer avec un uppercut. Puis, dès qu'il a shoot, il l'a tué avec un uppercut. Puis, c'est arrivé, mais est-ce que je peux me dire, même si le match-up est 100% identique, tu vas avoir Blades qui va sûrement être à range, outboxer Rozenstrike. Rozenstrike va attendre l'occasion parfaite. Puis, Blades va probablement monnaie donnée, mais Curtis Blaydes, à part s'être fait finir par Derrick Lewis puis par Francis Ngannou, Il ne s'est pas fait finir par personne d'autre. Il n'a jamais perdu contre personne d'autre. Est-ce que je peux dire, ah, toi, tu t'es fait knocker par Lewis et Ngannou, donc t'es pas tough? Non, il y a tous les autres qui ont affronté, il a mangé leur shot. Puis j'ai tendance à penser que ça va être la même affaire qui va arriver ici. Puis il va emmener Rozenstrike au sol, puis il va être pété à la gueule, puis il va peut-être y passer un TKO parce qu'il est dévastateur au sol. J'ai par décision personnellement, mais Curtis Blaze va gagner ce combat-là, selon moi. Ensuite, Jessica Andrade, Cynthia Calvillo, un genre de combat où je pense que le pic logique, c'est Andrade, puis je vais vous expliquer pourquoi, puis après je vais vous expliquer pourquoi je doute mon propre pic. Le pic logique, c'est Andrade parce que c'est un truc qui va foncer vers Cynthia Calvillo, qui, pour une raison ou une autre, est une excellente grappler, mais qui est peut-être pas, comme dans plusieurs cas, nécessairement capable de souvent amener le combat au sol ou être à son meilleur, ce qui fait que c'est une boxeuse qui lance très peu de volume, puis qui aime donc justement reculer, puis circle, puis se promener, puis juste très bien paraître, avoir du beau mouvement, avoir plein de belles choses, mais juste pas lancer assez de volume en arrière de ça pour rendre sa game fonctionnelle. C'est une combattante excessivement frustrante à voir parce que quand elle lance, c'est beau, c'est clean. Tout ce qu'elle fait est bonne, elle est athlétique, elle est explosive, elle a quand même un genre de sneaky power, mais elle est tellement du genre à se laisser back up et à pas lancer autant de strikes que son adversaire. Puis quand elle lance, c'est beau puis ça marche, mais elle lance juste pas assez pour que ça marche assez longtemps pour qu'elle gagne. Puis Jessica Andrade, c'est ça qu'elle fait, être un truc puis lancer du volume en avançant. Fait que pour cette raison-là, le pic logique, c'est 100% Jessica Andrade. Puis là, pourquoi j'en doute? C'est parce que Cynthia Calvillo, comme j'ai dit, est une incroyable grappler en termes de jujitsu, mais qui a peut-être pas vraiment la lutte pour amener le combat-là. Puis je me demande juste si Jessica Andrade est capable de résister d'amener le combat-là, parce que Jessica Andrade crash dans ses adversaires, puis elle finit toujours dans le clinch, puis elle l'aime donc là, son takedown, qu'elle lève son adversaire, puis elle se pointe avec. C'est celui qu'elle a slamé Rose avec, parce que Rose a pris le kimura, là. C'est son takedown fétiche, elle passe à tout le monde, puis j'ai comme peur un peu en dedans de moi que Jessica Andrade fasse juste gagner le combat debout, puis lender un paquet de takedown pour ainsi s'amener dans un combat où elle se out-grapple par Cynthia Calvillo, parce que c'est elle-même qui initie les amener au sol. Donc, je vais quand même pick Andrade. Je pense que c'est le pick logique. Mais, petit doute. J'ai des petits doutes. Ensuite, on tombe sur les prelims et on a Marlon Moraes, Merab Dvalishvili. Et puis, tu sais, voilà un an et demi, deux ans, j'aurais eu tellement plus de misère avec ce combat-là. Mais Marlon Moraes, t'es un bon striker et technique. Lui aussi, t'es un sniper qui va pas nécessairement lancer le plus gros volume. Mais le gars, à chaque fois qu'il lance, il met tellement tout dans ses strikes qu'il est pas capable de maintain son propre pace, qui est même pas un pace rapide. Puis on le voit au milieu du premier round. Ça commence à être plus difficile pour lui au niveau du cardio. Il ralentit, puis on dirait que ça commence de plus en plus vieilli. Ça commence à lui rentrer dans la tête, puis ça y rentre dans la tête avant même qu'il se fatigue vraiment. C'est comme si vers la fin du premier round, début du deuxième, il commençait déjà à dire « Oh fuck, je le sens que je vais gas out, là, ça arrive à toutes les fois, puis ça va encore m'arriver, puis là, qu'est-ce que je vais faire, mec, ça m'arrive. » Ça veut dire qu'il rentre dans sa propre tête avec ça, puis ça fait que sa game a fall apart plus vite, puis tu sais, il pourrait knocker Merab au premier round, parce que Merab est un petit peu niaiseux dans la manière qu'il opère, il est pas mal all offense, zero defense, mais plus le combat va avancer, Merab, c'est ça sa game, le cardio, take down son adversaire 44 fois par combat, est incapable de le contrôler puis de rester par-dessus lui, mais de le laisser se relever pour le retake down de nouveau quelques instants plus tard, puis il commence à avoir une striking game qui est de plus en plus fonctionnelle, puis qui peut surprendre ses adversaires, parce que tu t'attends tellement rien que Merab de out-wrestle comme un malade, que quand il arrive et il lance une coupe de combinaison, t'es genre, oh, qu'est-ce que c'est ça? Je m'attendais pas particulièrement à ça. Donc, tu sais, je pense que c'est un pic assez clair pour Merab ici par décision. Ça nous mène à un combat que, man, autant c'est probablement le deuxième combat le plus excitant sur toute la carte, autant je suis comme triste parce que tabarnouche que peu importe ce qui arrive, ce combat-là ne sera pas ce qu'il aurait pu être. Parce que Dan Hooker Et littéralement, là, il est jeudi soir là, en ce moment quand j'enregistre ça. Puis je sais même pas s'il est parti de chez eux. Puis il a pesé, c'est demain. Puis il y a comme 34 millions d'années d'avions à faire qui se cancellent toutes parce que le 12 heures d'avion qu'il y a à faire, c'est genre le 12 heures de différence entre là-bas et ici. Fait que c'est comme s'il partait à 1 heure de là-bas, il fait 12 heures d'avion, puis il arrive aux États-Unis à l'heure qui était quand il est parti là-bas. Fait que c'est comme si toute le 12 heures qu'il a fait d'avion a été perdu dans un vortex spatio-temporel. Que c'est comme, je pars à midi de la Nouvelle-Zélande le jeudi, puis j'arrive à midi jeudi aux États-Unis. 12 heures plus tard, mais à la même crise d'heure que je suis, puis le même jour que je suis parti de chez nous. Bref. Puis après ça, il arrive, il faut qu'il cut weight, fasse le poids. D'après moi, il y en a un des deux qui va manquer le poids, sinon les deux qui vont manquer le poids, parce que c'est la même crise de scénario avec Merab qui a eu de la misère avec son visa, lui avec, puis qui s'est retrouvé justement encore en Allemagne, assez d'avoir son visa mardi, mercredi de cette semaine, littéralement. Donc les deux vont arriver dernière minute pour la peser, vouloir qu'il cut weight dans un aéroport, vont être jet lag que le 5 Alice. Fait que honnêtement, je pense pas que ce combat-là va être ce que ça pourrait être. Puis je piquais tellement Nasrat toute la semaine à cause justement des problèmes de Hooker. Puis je me disais, hey, Nasrat, il n'y a pas eu ces problèmes-là. Hooker va arriver dernière seconde, essayer de faire le poids. Hey, oublie ça, tu sais. Déjà que c'est un combattant qui peut commencer le combat un peu cold. Puis Nasrat, tu sais, qui commence ça en sein malade mental. Puis Dan Hooker, on l'a vu. Contre Chandler, être plus fragile au premier round, bien que c'est comme la première fois de sa carrière, basically, que ça arrivait. Fait que là, j'étais là, ben, Nasrat, all the way. Mais là, la même crise d'affaires arrive à Nasrat, donc j'ai tendance à me dire que ça égalise les affaires. Fait que je commence à me rappeler, je commence à revenir à mon analyse de si le match-up avait été dans des circonstances normales. Puis mon analyse, c'est que Nasrat, oui, va lancer beaucoup, mais Dan Hooker est généralement pas un mauvais defensive fighter. Il est un très bon counter fighter, un striker très avancé. Puis, il a déjà affronté des gars aussi forts, aussi rapides, puis aussi tough que Nasrat Akparas. Nasrat Akparas n'a jamais affronté quelqu'un de la trempe de Dan Hooker. Donc, ça va être Hooker par décision, mon pick ici. Et ça nous mène encore sur les prelims, un combat d'heavyweight, un ranké, Shamil Abdourakhimov pour la première fois depuis 2500 ans. Ce gars-là, il fallait qu'il se batte contre Cyril Gann, puis il s'est jamais battu contre Cyril Gann, puis il s'est pas rebattu depuis, puis Cyril est rendu champion par intérim de la division. Fait qu'imagine comment ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, le chum Shamil, puis affronte Chris Daukaus, que man, je pense que j'ai pas le choix d'embarquer dans le genre de hype train Chris Daukaus pour l'instant, parce que oui, il est clairement trop petit pour la division, c'est un gars qui pèse genre 230 livres à peu près, puis même pas sa diète, tu comprends? Fait que c'est absolument un 205 livres, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il est très bon avec sa boxe. Ses mains sont rapides. Puis ça surprend des gros heavyweights lents comme Shamil Abdourakhimov. Et puis je pense que ça ressemble à un genre de combat que Daukaus pourrait gagner par TKO au premier round. Ça, ici, fait que ça va être ça mon pick. Ensuite, Roxanne Modafferi face à Tayla Santos. Et puis tu sais, c'est rendu ça le read des combats de Roxanne Modafferi. C'est à quel point la différence athlétique entre elle et son adversaire va être significative. Puis on l'a vu, quand elle affronte une super athlète qui n'a pas vraiment de skills comme Macy Barber, elle est quand même capable de gagner. Mais Tayla Santos, ses skills ne sont pas super excitants parce qu'elle veut rester à distance, kicker très fort, pratiquer sa game de distance Muay Thai. Puis si tu t'approches trop proche, elle va te take down. Puis elle a vraiment un smothering top control, pas très actif, là, comme on a vu contre Julian Robertson. Puis ça rend pas ça super le fun, mais ça fait que quand tu es contre des bonnes grapplers en dessous, comme Roxy, comme Julian Robertson, le fait que tu fais pas grand chose puis que tu restes ben sécur, ça enlève beaucoup de chances que tu te fasses soumettre, puis ça enlève beaucoup de chances que ton adversaire paraisse bien en dessous de toi. Puis c'est comme ça que Tayla Santos va arracher des runs à ses adversaires, puis je pense que c'est probablement ça qu'elle va faire avec Roxy. Et je mets une petite astérix ici parce qu'on le sait jamais comment ça va finir un combat de Roxy au sol. Tant qu'on ne l'a pas vu grapple avec l'autre, on ne le saura pas. C'est quoi la dynamique du grappling? Parce que même si tout le monde est un meilleur athlète, tout le monde est plus fort physiquement, tout le monde est plus explosif qu'elle, la fille est tellement expérimentée et une bonne grappler qu'elle a réussi à out-grapple la majorité de ces gens-là. Mais je pense que le stand-up à distance combiné avec les takedowns et du bon grappling positionnel qui ne prend pas de risque, ça va être assez pour que Santos gagne ce combat-là. Ensuite, Uros Medic, Jalen Turner. Intéressant parce que comme le preview de Bloody Elbow disait, c'est la première fois que ces deux gars-là vont affronter des gars aussi grands qu'eux. T'sais, ces deux grands lightweight faits sur le long qui sont pas mal des snipers at range puis qui essayent de... Oui, ils lancent des combinaisons, mais qui vont essayer de trouver la shot parfaite dans cette combinaison-là. Ou juste at range, essayer de te sniper avec une longue main gauche ou avec quelque chose comme ça. Et puis, c'est juste, ça va juste être intéressant de voir comment l'un va réagir face à l'autre, qui va être celui qui va être le plus capable de gérer la distance. C'est sûr que Turner va avoir 5-6 pouces de reach de son Medic. Le gars est juste tellement grand pour lightweight et tellement long. Mais Medic est un gars assez agressif, puis on a vu Turner avoir de la misère contre les gars les plus agressifs qu'il a affronté, genre Frivola, genre Vicente Luque qui a fait assez mal, puis tu sais. Autant j'ai jamais vu Medic affronter un gars comme Jalen Turner, autant j'ai vu Turner perdre un peu par knockout contre des gars qui ont le style un peu semblable à Medic, même s'ils n'ont pas la grandeur et le reach que Medic peut avoir. Donc, pour cette raison-là, je vais avoir Uros Medic TKO, deuxième round, et puis ça nous mène à Cody Brundage, Nick Maximov. On va très rapidement là-dessus. J'ai Cody Brundage par TKO, deuxième round. Nick Maximov, c'est un gars de Nick Diaz Academy. Je pense qu'il est juste là à cause de Nick Diaz. Shout-out à lui, shout-out au fait qu'il a réussi à comme un peu parler sa relation avec Nick dans un contrat UFC. C'est un grappler. Il s'est déjà battu à heavyweight. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas si gros que ça. Puis, man, j'ai pas grand chose à dire sur sa game, honnêtement. J'ai pas grand chose à dire sur lui. J'ai regardé ses combats. Il n'y a rien de spécial qui ressort de là. Puis Brundage, il est capable d'amener quelqu'un au sol, puis de donner des bons ground and pound, puis de travailler vers une soumission. Fait que, au moins, il y a quelque chose dans le game de Cody Brundage qui me dit ouais, il sait où il s'en va un peu plus qu'un Maximov qui. Ah, ce gars-là, c'est un grappler, mais des fois, il essaie même pas d'initier nécessairement le grappling ou essaie de l'initier de façon tellement évidente qu'il n'y a aucune chance que ses takedowns le passent. Bref, en tout cas, pas très impressionné par le chum Maximov. C'est pour ça que j'ai Cody Brundage TKO au deuxième round dans ce combat-là, puis l'autre combat, c'est encore pire. Matthew Simmonsberger, Martin Sano. Écoute, Martin Sano, quand tu parles de parler ta relation avec Nick Diaz dans un combat de l'UFC, le gars, une fiche de 4 victoires, 2 défaites, 1 combat nul dans ses 3 derniers combats. A justement 2 défaites et 1 combat nul. Il a commencé sa carrière 4-0 contre genre des gens qui n'existent pas vraiment. Il s'est battu au World Series of Fighting. Il a perdu, s'est battu à Bellator. Il a eu une défaite puis 1 combat nul. Son dernier combat, c'était en 2017. Fait comme un gars qui est sur une séquence de 2 défaites et 1 combat nul, qui ne s'est pas battu depuis 2017, se retrouve avec un fight à l'UFC contre Matthew Simmonsberger. Ben, c'est parce qu'il connaît Nick Diaz, puis il va se faire un knock au premier. C'est avec ça que j'ai à dire. Matthew Simmonsberger, TKO, round one. Et ça nous mène à Jonathan Pierce, Omar Morales. Bon petit combat, Jonathan Pierce, qui va être le plus agressif, le plus, mettons, brawler des deux face à Omar Morales, qu'on a vu qui est quand même un très bon back foot, striker, stratégique, qui place bien ses shots, puis tu sais. J'ai pas vu. Man, Jonathan Pierce s'est fait spark par Joe Lauzon. C'est rien que ça que j'ai à dire pour vrai. Puis il a fait un bon fight contre Kai Kamaka. Puis oui, il y a eu des bons moments au sol à le contrôler. J'ai l'impression que c'est peut-être Kai Kamaka qui a essayé de lutter avec. Puis s'est retrouvé en dessous pour la majorité de ces fois-là. Fait que je sais pas quoi mettre. C'est un combat défensif plus intelligent, puis pour cette raison-là, va réussir à outstriker principalement Jonathan Pierce. Pour cette raison-là, je l'ai par décision dans ce combat-là. Ça conclut mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 266. Laissez-moi un like si vous avez apprécié Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions. Qu'est-ce que vous pensez du main event, du co-main event, du retour de Nick Diaz, de n'importe quel autre combat sur la carte. Je veux savoir vos opinions dans les commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Toute la patente. Vous savez comment ça marche. Je m'en vais de site. Bon combat samedi. On se parle plus tard.